France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Peu de choses sont plus agaçantes qu'une personne qui vous reprend sur votre manière de parler. On ne dit pas « après que » plus subjonctif, mais plus indicatif. On ne dit pas « la lettre que j'ai écrite », mais « la lettre que j'ai écrite ». En même temps, quand on a l'impression de connaître soi-même une règle de grammaire, qu'est-ce qu'on est fier ? Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire et de le redire ? Mais qu'est-ce que ça change vraiment de connaître l'existence du COD et de l'accord du participe passé ? Pourquoi ça compte de montrer que l'on sait bien parler ?
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Dans un parc. Des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était hunt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Bonjour Anna Bélier.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris-Cité et on peut lire sous votre direction et celle de Daniel Godard, la grande grammaire du français, coédition Actes Sud et Imprimerie Nationale. Alors on a entendu un certain nombre de fautes, d'erreurs, conjugaisons, orthographes, syntaxe, accords. Qu'est-ce qu'une faute de grammaire en particulier, Anna Bélier ?
Alors, il y a déjà plusieurs sens du mot grammaire. Donc ça peut être la grammaire scolaire, on a exemple avec la dictée de Topaz.
Exactement. Voilà.
Et c'est souvent un ensemble de règles un peu simplifiées. Et il y a la grammaire des puristes, la grammaire prescriptive, qui est une tradition qui a commencé avec les remarques de Vaugelas, qui continue d'une certaine manière avec le bon usage de Grovis. Et qui est par exemple dans la rubrique « dire, ne pas dire » de l'Académie française. Donc là, c'est une grammaire prescriptive qui vous dit « on ne dit pas », mais en fait, ça veut dire qu'on le dit, mais qu'on ne devrait pas le dire. Et donc, c'est ce qui, parmi les usages, qui stigmatise certains et qui en valorise d'autres. Et puis, il y a la grammaire descriptive, qui est celle des linguistes, qui essaye de mettre au jour les règles sous-jacentes à la langue, à toute langue, en fait, puisqu'on ne parle pas en liste de mots, on construit des phrases. Donc, quelles sont les constructions de ces phrases, quel sens elles ont et combien de possibilités on a à notre disposition. Donc, les grammaires, des règles au sens des linguistes... En général, elles sont observées, puisque c'est elles qui sous-tendent le système. C'est des règles qu'on a bien intériorisées, qu'on observe à l'oral, qu'on a appris avant d'apprendre à écrire, qu'on a appris avant l'école. Donc, par exemple, on dit le chien et pas chien, le déterminant et avant le nom. Donc, il y a des langues sans déterminant, il y a des langues où le déterminant est après. On dit le chien et pas la chien. Donc, il y a un accord en genre et en nombre de ce déterminant. Donc, ça, c'est des règles qui sont basées sur des choses qu'on entend. Malheureusement, si on peut dire, dans la grammaire du français, l'évolution historique fait qu'on ne prononce plus les lettres finales, on prononce plus en particulier les consonnes finales. Donc cet accord sujet-verbe qu'on intériorise bien, qui est une règle fondamentale, c'est pas comme l'accord du participe passé, on l'entend plus souvent. Donc on n'entend pas le S de mouton, on n'entend pas le ENT de était.
Oui, sauf dans cet extrait.
Voilà, donc c'est la règle de l'accord sujet-verbe qui est fondamentale. Elle pose des problèmes d'écriture, donc ça devient un problème orthographique, même si à l'oral, voilà, elle est bien respectée. Alors évidemment, il y a des usages, on va dire, ludiques ou stylistiquement marqués, donc comme Renaud qui s'amuse à faire varier cette conjugaison. Mais en faisant ça, il s'appuie sur des usages régionaux qui existent encore et qui ont longtemps existé. On les trouve même chez Molière, de conjuguer « je » avec le pluriel. Donc j'avons, j'avions, j'irions. Donc le « je » plus la première personne du pluriel et pas du singulier, c'est quelque chose qui existe. Donc les inventions des auteurs, souvent, ne s'appuient pas sur rien.
Alors vous l'avez dit, Annabelle, il y a trois types de grammaire, donc prescriptive, descriptive, et puis celle aussi qu'on apprend à l'école. La grammaire qu'on apprend à l'école, elle fait partie de quel type de grammaire ? Est-ce qu'elle est prescriptive ? Puisque quand on fait des dictées, quand on s'exprime mal, on est repris par le professeur. Et on a souvent l'impression, quand on parle mal, de ne pas avoir bien appris des choses à l'école ou ne pas bien s'en souvenir.
Alors la grammaire de l'école, effectivement, a essentiellement pour but, au moins en primaire, d'apprendre à écrire, donc à apprendre l'orthographe. Donc elle est vraiment axée sur l'écrit et sur l'orthographe. Ce faisant, voilà, elle mobilise certaines connaissances et pas toutes. Et puis à partir du secondaire, c'est plutôt un commentaire de texte littéraire. Donc du coup, l'apprenant est aussi confronté à des états de langue antérieurs, ce qui fait la difficulté, puisque Molière utilise point et au lieu de pas. Enfin voilà, donc ça devient de plus en plus une langue étrangère, une langue lointaine. Mais là où la grammaire scolaire se contente pas d'apprendre à écrire, c'est qu'elle apprend aussi ce que certains appellent des niveaux de langue. Donc parmi les différentes façons de s'exprimer, il y en a certaines qui sont plus valorisées que d'autres, et c'est celles-là qu'on va écrire. Donc avec le passage à l'écrit, il y a un tri dans les façons de parler. Et par exemple, on va dire à l'enfant qui jusqu'ici parlait spontanément et parlait comme ses parents, comme tous ses parents, qu'il va falloir mettre « ne » avec « pas ». Et lui, ce qu'il entendait et ce qu'il disait, c'était « c'est pas vrai, je veux pas », puisque « ne » est en baisse constante avec « pas ». Déjà, le jeune Louis XIII, puisqu'on a les carnets de son médecin, Erard disait la moitié du temps « je veux pas » et pas « je ne veux pas ».
Donc, Annabelle, juste avant que vous répondiez sur cette question de la grammaire de l'école descriptive ou prescriptive, comment ça se fait qu'à l'école, on apprenne une manière de parler qu'on ne parle pas ? Et vous avez donné cet exemple du « ne » qui est en train de disparaître ou qui disparaît. Par exemple, on dit rarement « ce n'est pas vrai », on dit « c'est pas vrai ». Alors, pourquoi on l'enseigne à nos enfants ?
Parce que ça correspond à un privilège de l'écrit ou d'un certain écrit. Parce que quand on regarde les romans, donc les linguistes observent l'usage et s'appuient sur des grandes bases de données. Parce que observer l'usage, c'est pas juste repérer ce qu'on a entendu au café ou dans la rue. Donc on a des grandes bases de données numérisées par les universités. Donc une base qui s'appelle Frontex pour la littérature. Donc même dans la littérature la plus éditée, la plus soignée, Frontex, on s'aperçoit qu'à partir de 1980, c'est pas vrai, c'est plus, ce n'est pas vrai. Mais voilà, comme à l'école, on s'appuie quand même sur des textes souvent antérieurs. Dans la littérature antérieure, il y avait un peu plus de ne que dans la grammaire de l'oral. Mais ce faisant, on perpétue cette idée que ne serait négatif et que pas, rien, personne serait des espèces d'auxiliaires de la négation. Mais non, ça empêche de voir le fonctionnement actuel de la négation en français.
Donc allez-y, par exemple.
Voilà, donc expliquez-nous le problème des règles des puristes ou des règles prescriptives, c'est que d'une part, ils ignorent l'usage contemporain, ils culpabilisent les gens. Oui. Qui parlent spontanément, d'un seul coup on leur dit, quand ils arrivent à l'école, votre façon de parler n'est pas la bonne. Et puis, souvent, ça s'appuie sur une méconnaissance de la logique même de la langue. Parce que pourquoi ne disparaît ? C'est pas parce que les gens sont paresseux ou oublieux, c'est parce que ne n'est plus négatif en français contemporain. Il l'était il y a longtemps, mais ne, quand il est employé tout seul, c'est le ne dit explicitif. Souvent, les gens justement comprennent pas bien. Je crains qu'il ne pleuve, ça veut dire je crains qu'il pleuve. Donc le ne explétif, il n'est pas négatif. Explétif, ça veut dire qu'on pourrait l'omettre. Mm-hmm. Voilà. Mais là, il n'est pas négatif quand il n'est pas avec un mot négatif. Il est resté négatif, c'est l'ancien système, simplement avec 3-4 verbes, je ne peux, je n'ose, je ne sais, ou ça veut dire je ne peux pas, je n'ose pas. Mais si vous dites je ne mange, bah vous pouvez pas dire je ne mange. Ou c'est je crains que je ne mange. Voilà, mais ça veut dire je mange, ça veut pas dire je ne mange pas. Donc ne n'est plus négatif. Ce qui est négatif, c'est pas rien, personne. Et il suffit à faire la négation. Et la question qu'on se pose en tant que linguiste, c'est quand est-ce qu'on peut mettre ne? Parce qu'on peut pas mettre ne tout le temps. Voilà. Donc la règle des puristes fait croire que ne est négatif alors qu'il ne l'est pas. Et fait croire qu'on pourrait toujours mettre ne en faisant un effort. Voilà, comme mettez une cravate, mettez ne. Mais non, quand il n'y a pas de verbe, pas un bruit, pas un chat, on ne peut pas mettre ne, ne suppose un verbe. Quand la négation ne porte pas sur toute la phrase, mais seulement sur un bout de la phrase, par exemple, c'était un film pas mal, on ne peut pas dire ce n'était un film pas mal. D'accord ? Donc quand la négation porte juste sur ou c'est un enfant pas heureux, voilà. Donc
un qualificatif.
Oui, ou même je viendrai dans pas longtemps. Enfin voilà, dès qu'on nie une partie de la phrase, ou par exemple sans rien, il est venu sans rien, on ne peut pas dire il n'est venu sans rien. Voilà. Oui. Donc, si la négation est limitée à 100, au groupe nominal, on ne peut pas mettre ne. Donc, il y a un fonctionnement de ne à expliquer. Que ne, c'est une forme faible, elle ne s'emploie pas toute seule, ce n'est pas comme non. Voilà. Donc, il y a un fonctionnement de ne à expliquer qui est. Et c'est vraiment réducteur et trompeur de juste dire non, mais mettez ne, faites un effort. Voilà. La négation, c'est ne et pas de salut hors de ne.
Et alors, pourquoi on est encore attaché à ce nœud et à l'idée que ça fait partie d'une forme négative, que ce soit... Bon, chez les puristes, ils sont puristes, après tout. Voilà, c'est leur envie, ils la défendent. Mais à l'école, les instituteurs, les institutrices ne sont pas forcément puristes. Pourquoi on continue à enseigner ça ?
Parce que nœud est investi de ce qu'on appelle un sens social. Donc, même le président de la République, même la première ministre, même les académiciens ne l'emploient pas à l'oral spontanément, maintenant, à l'écrit, on a tous ces écrits spontanés, des SMS. Donc, la différence écrit-oral a beaucoup changé. Quand on dit l'écrit-l'oral, c'est l'écrit édité, normalisé, soigné. Et maintenant, avec tout le passage à l'écrit spontané de que permet Internet, on voit beaucoup de messages écrits sans nœud. Donc, le nœud reste dans l'imaginaire social comme l'imparfait du subjonctif, quelque chose qui fait chic, qui fait soigner, qui fait lettré.
Donc, cette règle ne pas est une règle de grammaire qu'on pourrait dire inutile, sauf dans un sens social, pour exprimer
c'est
autre chose que la négation.
C'est une règle désuète. C'est une règle désuète puisque la négation ne fonctionne plus comme ça.
Mais ça
en
permet
français.
D'exprimer un rapport, c'est-à-dire de je maîtrise un certain registre de langue française.
Ça pourrait être considéré comme un conseil de goût, de style, voilà, comme mettez une cravate. Mais c'est plus nocif que juste la cravate, puisque ça empêche de comprendre le système de la négation en français. Et puis, du coup, ça culpabilise. Donc, cette notion de faute, elle est quand même très importante. Oui. Donc, les règles au sens des puristes, si on ne les respecte pas, ce n'est pas juste qu'on fait une erreur, comme une erreur de calcul, c'est qu'on est en faute. Donc, il y a une intériorisation de la dévalorisation de notre façon de parler qui est assez importante.
Et d'ailleurs, on parle de faute.
Beaucoup de gens hésitent à écrire parce qu'ils sentent bien que l'écrit, c'est pas pour eux, il y a des règles qu'ils maîtrisent pas, comme la dictée c'est fait pour faire des fautes.
Oui.
On pourrait faire des dictées transparentes comme Hout et Piron, il y a pas de le français a certains mots et certaines constructions qui posent pas de problème, mais dictées non, c'est pour faire des fautes. Donc il faut pas sous-estimer ce caractère
culpabilisant,
dévalorisant, excluant des règles des puristes.
Donc il vaut mieux parler peut-être d'erreur plutôt que de faute. Et dans ce cas-là, se dire qu'il y a quand même des règles de grammaire qui ont une utilité, c'est-à-dire que vraiment il y a des choses que je ne peux pas dire sous peine de ne pas être comprise.
Alors c'est pas juste une histoire de pas être compris, c'est vraiment les règles qui sous-tendent le système de la langue. Si on dit moi venir, on est compris. Mais simplement, on apprend assez vite qu'en français, il y a deux types de pronoms, les pronoms forts, les pronoms faibles, et donc c'est je et c'est pas moi en sujet. Et on apprend aussi, et ça c'est assez subtil, assez vite, voilà, l'enfant dit avec moi et pas avec me.
C'est-à-dire qu'on l'apprend sans l'énoncer.
On l'apprend spontanément, voilà, parce qu'on l'entend et on entend la génération. On apprend aussi que c'est donc je vais et pas je vas ou je vont ou j'allons, parce qu'on l'entend. Donc on apprend l'accord sujet-verbe qui est assez général. Donc il y a ce qu'on appelle l'impossible de langue, c'est ça qui intéresse les linguistes. Tout n'est pas possible, même des choses qui auraient un sens. Et cet impossible de langue permet de faire émerger la règle, parce que si on dit pas moi venir, voilà, c'est parce qu'il y a deux règles, la règle sur les formes fortes et les formes faibles, et la règle sur l'accord sujet-verbe. Donc ça, c'est des règles fondamentales. Ce sont des règles fondamentales, oui. Puisque les puristes voudraient qu'on accorde avec l'objet.
Non, mais parlons normalement et faisons des erreurs de grammaire.
Non, mais je pense que c'est important de faire comprendre que ces règles de puristes. Alors, on n'en a pas parlé, mais en plus, elles se contredisent entre elles, elles évoluent, voilà, à l'époque de Vosgelas, il fallait pas dire parce que, il fallait dire pour ce que, bon. Donc, certains disent que malgré que une faute, d'autres que non. Bon, les règles.
Vosgelas, c'est le XVIIe siècle, hein, c'est ça. C'est le moment de la naissance de l'Académie française.
Et où apparaissent les premiers dictionnaires. Donc, il y a ce que Sylvain Roux appelait la grammatisation des langues. Donc, les langues européennes s'émancipent du latin comme langue de culture, comme langue de science, et se dotent d'académies et d'outils de standardisation, on va dire, donc de grammaire et de dictionnaire en Espagne, en Suède, un peu partout. Donc ces règles des puristes sont un peu contradictoires. Elles sont à un moment donné, elles ciblent tel ou tel usage, mais enfin à la fois elles reconnaissent, puisqu'elles reconnaissent qu'il y a un mauvais usage, ce qui est important de voir, c'est que dans toute langue il y a de la variation. Donc souvent les puristes parlent de faute, les linguistes parlent de variante. Et à tout moment, il y a de la variation dans les langues. Alors d'autant plus que la langue est parlée, comme le français, par des centaines de millions de personnes et sur les cinq continents. Mais même dans des groupes plus restreints, dans des langues plus restreintes, il y a de la variation. Et il y a deux types de variations. Il y a une variation sociale qui est liée au registre, qu'on ne parle pas de la même façon, voilà, à ses parents, à son patron, à son amoureux, donc suivant les situations de communication. Des fois, on appelle ça niveau de langue, donc à partir du moment où il y a la variation entre situations de communication, il y a ce que Bourdieu appelait le marché linguistique, donc certaines variantes sont valorisées, d'autres dévalorisées, mais ça c'est un peu externe à la variation intrinsèque, et vous avez tous accès à plusieurs registres, c'est-à-dire vous dites voiture ou bagnole ou caisse, voilà, c'est du français. C'est comme si on vous dit, malgré que c'est pas du français, c'est comme si on vous disait bagnole, c'est pas du français, voilà, c'est simplement un français qui est pas approprié dans les mêmes situations. Et vous avez automobile, qui est un peu désuet en tout cas ici. Et donc c'est un peu pareil pour les questions. Quand on vous dit, il faut dire viens-tu, c'est désuet, c'est comme automobile, ça fait partie du français, mais on va dire plutôt est-ce que tu viens, c'est plus neutre, c'est comme voiture. Et puis tu viens, qui est considéré comme populaire, relâché. Alors, je mets des guillemets à tout ça, parce qu'on n'a pas fait l'étude.
On n'a pas classé.
Si on fait une étude, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement les gens du peuple qui le disent, que c'est devenu. Donc, cette question sans inversion est devenue la façon majoritaire de poser des questions à l'oral au XXIe siècle. Et ça fait longtemps qu'elles existent. Voilà. Au lieu de dire tu viens ou tu sais quoi, au lieu de dire c'est pas du français, c'est mal, c'est relâché, il faut dire c'est un peu comme bagnole, voilà, ça peut et encore c'est un peu comme appart, si vous voulez, qui est plus considéré comme familier mais qui est devenu majoritaire par rapport à appartement. Et donc il y a une culpabilisation des variantes de construction qu'on a moins dans la variation lexicale, voilà, parce que cette variation, c'est pour les mots.
Il y a la variation sociale et la variation lexicale, c'est ça?
Cette variation sociale, elle est pour les mots, c'est la variation lexicale, elle est pour les constructions, c'est la variation grammaticale, qui est mal vue pour les puristes, elle est pour la phonétique, c'est les accents. Donc c'est quand même une prise de pouvoir politique et idéologique d'avoir fait croire que les Parisiens n'avaient pas d'accent. Et qu'il fallait que les non-parisiens perdent leur accent. On sait que chacun a un accent, c'est simplement l'accent parisien qui a été valorisé à un moment donné.
Et Vaujelas... Comme le neutre, le fameux neutre, la fameuse voix neutre, sans accent.
Voilà. Et donc et maintenant, on réhabilite un petit peu les variétés d'accent. On a des personnes politiques qui gardent leur accent. Mais pendant longtemps, on disait, perds ton accent, sinon tu pourras pas travailler. Et de la même façon qu'on réhabilite des régionalismes lexicaux. Voilà, pour chocolatine, pain au chocolat, 70, 70. Mais pendant longtemps, on demandait aux écrivains belges de corriger.
Oui.
Et pour la grammaire, on n'en est pas encore là, mais c'est du même ordre. On a cette variation sociale au sens où elle est investie d'un sens social. C'est pas forcément que ce sont des gens de milieux sociaux différents qui l'utilisent, mais il y a un imaginaire associé qui est différent. Donc ça, c'est le premier type de variation sociale. Et le deuxième type de variation, c'est la variation régionale. Donc c'est ça le cas pour les accents. Voilà, la variation régionale, c'est qu'on a on a des façons de parler différentes. Par exemple, la bagnole, c'est le char au Québec. Donc, vous avez tous accès à plusieurs variantes sociales, à plusieurs registres, mais pas forcément à plusieurs variantes régionales. Ça dépend voilà, d'où vous êtes, où vous habitez, où vous avez passé votre... Mais la variation régionale aussi a été un peu réduite au profit de... Donc, vous, je la disais quand même, son but, le bon usage, ils reconnaissaient que c'était ceux qui parlent et qui font l'usage, voilà, le peuple. Mais il disait qu'il y avait deux sens de peuple. Il y a populus, donc c'est le Sénat romain, et puis il y a plebs. Et plebs, c'est les nourrices et les domestiques, et c'est le mauvais usage. Donc il disait qu'il voulait promouvoir, faire connaître l'usage de la partie la plus saine de la cour, donc d'une certaine élite parisienne. Donc c'était ça, il y avait un but politique, en fait.
Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques guerres ou quelques plats d'argent ?
Cela ne serait rien !
Oh, peste la belle ! Quoi ? L'avez-vous surprise ? Elle n'est pas fidèle ?
C'est pis que tout cela !
Pis que tout cela ?
Pis !
Comment diantre friponne ! A-t-elle commis ?
Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne Vaugelas.
Qu'est-ce là ?
Quoi ? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences. La grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi et lui fait la main haute, obéir à ses lois.
Du plus grand effort fait, je la croyais coupable.
Quoi ? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable ?
Ainsi fait !
Je voudrais bien. Excusez-moi.
Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est pareille. Détruite des lois du langage, on l'a 100 fois instruite.
Tout ce que vous prêchez, je crois bel et bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon.
Impudente ! Appelez un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage.
Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et quand vos bons dictons ne servent pas de rien.
Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien.
Oh, cervelle indocile! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment? Deux pas mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit, trop d'une négative.
Je n'en veux pas étudier comme vous et je parle tout droit comme on parle chez nous.
Peut-on
établir? Quel solécisme horrible!
En voilà pour tuer une oreille sensible!
Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire?
Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père?
Ils peuvent pas parler de rien. Ils peuvent pas me parler de rien.
Ils peuvent pas me parler de rien. Alors je ne sais qu'écouter, convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king. Nos fans indignés, j'ai pris les clés de la ville. Ton émission est has-been. Le Renoir est trop au courant. L'artiste du moment mourant. Tu gagnes 10, tu perds 100. Toujours ce regard perçant. Ils peuvent pas me parler d'argent. Je suis dans les tunnels et les gens. Ils peuvent pas me donner conseil. Il y a plus Robin des Bois. Aucune n'a répondu à qu'est-ce qu'on fait de toute cette oseille. Ils peuvent pas me parler de conneries. Aïe aïe aïe, sweet gunnery. Ils peuvent pas me parler de rien. Alors je ne fais qu'écouter. Convaincu de faire le bien. Et pourquoi sont-ils dégoûtés? Ils peuvent pas parler au king. Nos fans indignés. J'ai pris les clés de la ville. Ton émission est has-been. Ils peuvent pas me parler d'armes. Forward sans ratatata. que le djihad incarne. C'est le manque d'amour qui craque. Ils peuvent pas parler de rap. Qui je suis? Lâche-moi la grappe. Papy a dû faire Verdun. On la voit dans des verbes. Ils peuvent pas parler de France. En bus, nord, sud, est, wesh. 20 piges d'itinérance. Ils peuvent pas parler de rien. Alors je ne fais qu'écouter.
Oxmo Puccino, peuvent pas, qui résonne très bien avec Les Femmes Savantes de Molière, la pièce de 1672. On a entendu la scène 6, acte 2, ce moment où Martine, la servante qui a été congédiée pour avoir fait offense à la langue française, se défend et dit « Quand on se fait entendre, on parle toujours bien et tous vos beaux dictons ne servent pas de rien ». Cet usage de la langue française et cette défense de la langue française, Anna Béillet, on se demande d'où elle vient. Pourquoi les puristes ont-ils toujours peur que la langue française soit menacée et veulent-ils à tout prix qu'il y ait un bon usage de la langue française et pas plusieurs usages ?
Là, dans ce passage, donc il faut bien voir qu'on n'entend pas Molière avec la prononciation de l'époque. Parce que souvent, on dit le français à la langue de Molière, mais Molière, il y a 400 ans, voilà, écrivait pas du tout comme l'orthographe actuelle. Il n'y avait pas de distinction entre I et J, entre U et V, et ne prononçait pas du tout comme on vient de l'entendre. Mais déjà à son époque, donc, il y avait cette violence, puisqu'il s'agit d'une violence, pour écarter certaines manières de parler, certaines variations. Alors, je pense que Molière serait étonné qu'on le prenne comme l'exemple même du bon usage quand on dit la langue de Molière pour figer la langue dans un certain académisme. Quand on dit la langue de Molière, c'est justement pour dire la langue française, c'est d'abord la langue écrite, c'est la langue des auteurs et des écrivains du siècle classique, comme s'il y avait eu un apogée et puis ensuite un déclin. Donc, le purisme est toujours lié au déclinisme. Et donc déjà à l'époque de Molière, et Molière s'en moque parce que lui-même parlait gascon, parlait picard, il prenait beaucoup de liberté avec justement ce purisme qui était en train d'émerger. Et donc il montre cette violence où on peut se faire renvoyer, donc Martine risque d'être renvoyée, non pas parce qu'elle a volé quelque chose, on dit que c'est un crime et que c'est pire que le vol, mais parce qu'elle a mis pas avec rien. Et pas avec rien, on peut mettre plus avec rien, ce n'est plus rien. Voilà. On peut mettre pas avec rien dans c'est pas rien. Donc, mais là, ça, voilà, il y a la les deux règles. Est-ce que les deux mots négatifs s'annulent ? Donc c'est pas rien d'employer dans un sens positif, c'est une litote, c'est quelque chose. Là, c'est bien vu, mais là, c'est dans un sens négatif où c'est pas rien, où vos beaux discours ne me servent pas de rien. Ça veut dire ne me servent plus à rien, ne me servent à rien. Voilà. Donc c'est donc dans les langues, souvent le mot qui est la négation de phrase, donc pas, et accompagne les autres mots négatifs. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, comme on le voit avec Oxmo Puccino. Donc le fait de mettre deux mots négatifs qui ensemble vont faire une seule phrase négative et pas s'annuler, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans les langues, qu'on retrouve dans beaucoup de langues. Donc on le retrouve toujours aujourd'hui quand Oxmo Puccino dit « peuvent pas parler de rien ». Donc lui, en plus, il omet le sujet, donc oui. C'est une autre liberté qu'on a aussi dans « faut pas ». Mais voilà, donc ça fait aussi... Il y a aussi plein de langues où on n'exprime pas le pronom sujet. C'est quelque chose qui en français est plus limité, mais qu'on peut tout à fait utiliser. Et donc « peuvent pas parler de rien ». J'avais rencontré ce monsieur et je lui avais demandé, ça veut bien dire, ils peuvent parler de rien. Voilà, est-ce que c'est bien le sens négatif, c'est pas de négation.
Ils peuvent rien dire.
Voilà, ils peuvent rien dire. Donc c'était bien ce sens-là, donc exactement le sens des femmes savantes. Donc ça veut dire que malgré les remontrances, malgré les conseils, l'usage de Martine continue aujourd'hui.
Et donc finalement, c'est la voie de l'usage spontané
exactement.
Qui prime.
Et au Québec, c'est beaucoup plus fréquent encore que maintenant. Et quand j'avais, mais Oxmo Puccino avait l'impression de faire une faute et il pensait qu'il était influencé par l'anglais. Donc il y a cette pratique des anglicistes, I ain't working for nothing. Donc il y a dans l'afro-américain ce redoublement de la négation avec un mot négatif qu'on a aussi dans plein de langues, mais qui est aussi mal vu, qui est vu comme de l'afro-américain. Donc lui, il pensait qu'il était influencé par l'anglais. Et pas forcément, voilà, parce que c'est un usage qui est depuis longtemps en français, qu'on a dans d'autres chansons. Lucky Luke, il n'a pas peur de personne, ça veut dire il a peur de personne. Et donc c'est la problématique des anglicistes. Souvent, quand il y a un usage qui ne nous plaît pas ou qui n'est pas conforme à la norme, on croit que c'est la faute de l'anglais, et pas forcément. Souvent, ça vient d'usages anciens du français.
Et pourquoi perdure ce sentiment d'être fautif, d'avoir fait une erreur, alors que on voit bien, quand on parle avec les uns et les autres, que tout le monde fait des fautes. Alors pourquoi il y a une culpabilisation autour de la faute et pourquoi on se sent fautif? On se sent empêché de dire certaines choses, alors que, à partir du moment où on se fait comprendre, l'essentiel pourrait être là.
Alors, encore une fois, dans la langue, il y a des règles fondamentales et c'est pas juste une histoire de compréhension. Il y a des structures de la langue, voilà, il y a des, en français, c'est des prépositions, avec moi, pour moi, c'est pas des postpositions, on pourrait comprendre, toi avec, moi avec, mais voilà, c'est pas la logique de la langue. Ou si on disait, chien, le, plutôt
oui, c'est ce que
le chien,
les impossibles de la
voilà, langue. Voilà, il y a des règles fondamentales en français et dans d'autres langues, mais il y a comme ça des types de langues avec ou sans article, avec préposition, avec postposition, avec verbe conjugué, sans verbe conjugué, voilà, il y a des
mais
règles
indépendamment de
les langues. Donc ce n'est pas juste une question
règles.
D'intercompréhension. Et en plus, même quand on parle la même langue ou la même variante de langue, c'est pas sûr qu'on se comprenne.
Oui, ça c'est les limites du langage voilà. Pour le coup. Il y a les sous-entendus, le contexte.
Mais effectivement, la question qui se pose, c'est pourquoi perdurent ces discours normatifs,
voilà.
Parce que finalement, ils sont pas utilisés, ils sont pas appliqués, et puis il ne change pas vraiment l'évolution de la langue. C'est-à-dire qu'on voit une évolution où les questions avec mots interrogatifs à la fin, tu vas où, l'emporte, elles existaient déjà il y a longtemps, ou les questions où on monte la voix, tu viens plutôt que viens-tu, voilà, l'emporte, alors qu'elles sont, elles sont stigmatisées. Et quand on monte la voix en disant tu viens, ça montre qu'il y a un effort articulatoire. C'est pas forcément qu'on est paresseux de pas inverser. Enfin, voilà, donc ces règles de Puris, elles sont pas justifiées, elles sont pas expliquées pourquoi il faudrait inverser. Voilà, s'il y a un mot négatif, s'il y a un mot interrogatif, peut-être ça suffit pour comprendre que c'est une question. Tu vas où? Pourquoi est-ce qu'il faudrait en plus une inversion? Où vas-tu?
Et surtout, pourquoi
ce serait redondant, on pourrait dire. Ouais. C'est redondant parce que souvent, ce que disent les puristes, c'est soit c'est pas beau, donc c'est un argument esthétique, soit c'est paresseux, voilà, il faut faire l'effort de, soit c'est relâché, mais relâché, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il continue, donc tant qu'il continue, ben voilà, ça veut dire qu'il blâme une partie des usages, et souvent c'est les usages les plus fréquents, les plus
spontanés. Mais le problème.
Et donc toujours on est en faute par rapport à ces usages, par rapport à ces préceptes. Donc appelons les préceptes et pas règles, puisque les règles sont. Enfin voilà, le linguiste a une vision des règles comme des vraies régularités observables, testables, pas des diktats un peu arbitraires. Pourquoi malgré que est blâmé, par exemple? Pourquoi malgré que serait une faute? Malgré que, c'est une préposition, malgré vous, malgré nous. Les prépositions plus que, c'est comme ça, c'est une façon tout à fait possible de faire des circonstanciels. On a pour que, selon que, avant que, donc malgré que est bien formé dans le système des circonstanciels. On peut avoir juste un subordonnant, quand, comme, si, ou bien que, si c'est un mot, mais on ne voit pas pourquoi bien que chasserait malgré que, puisque quand chasse pas pendant que, voilà. Mais quand même, il est blâmé, mais sans aucune raison, voilà. Donc, il y a ces remarques de. Alors, l'autre problème de ces préceptes des puristes, c'est qu'ils sont écrits un peu nulle part. Enfin, c'est difficile de les trouver, puisque.
Bah, voilà, et puis, lorsque j'allais vous
les remarques
aussi,
de Vaugelas, personne ne les lit. Le dictionnaire de l'Académie, il est ancien, il est incomplet. Il y a quelques remarques dispersées, mais des fois, on dit, Abelet linguiste, enfin, voilà. Il y aurait les règles, comme le code civil, le code pénal, et puis on le respecte ou pas. Les linguistes seraient un peu comme les criminologues, les sociologues.
Du bien parler.
Non, qui regardent, est-ce qu'on respecte ou non les lois.
Ouais.
Mais les lois, elles sont votées par des représentants du peuple et elles sont écrites. Nul n'est censé ignorer la loi. Les règles de grammaire, au sens de loi arbitraire que dictent des puristes, elles sont pas écrites accessibles dans un code clair, non. Donc c'est pour ça qu'on est toujours en faute, parce que justement on les ignore la plupart du temps.
Mais le problème,
avant d'être allé à l'école, vous savez pas qu'il faut pas dire des fois. Et puis on vous dit il faut pas dire des fois, il faut dire parfois ou quelquefois, mais on voit pas pourquoi, parce que des plus fois c'est bien formé. On dit bien une fois, deux fois, trois fois, pourquoi pas des fois. Donc ce sont des règles qui souvent sont arbitraires ou s'appuient sur un état entier de la langue, qui sont pas justifiées, qui correspondent pas à la logique de la langue. qui sont trompeurs et qui souvent voilà, survalorisent un usage quand il est devenu minoritaire, tout simplement.
Le problème, Anna Béillet, c'est qu'on parle des puristes comme si en fait il s'agissait d'un groupe un petit peu confus, mais à part. Le problème, c'est que les puristes, c'est nous-mêmes à chaque fois qui nous sentons fautifs quand on a l'impression de faire une erreur de grammaire et qui reprenons les autres allègrement dès qu'on a l'impression que ça nous choque. Il suffit de voir d'ailleurs la manière dont on est repris très facilement dans une conversation où on nous fait très vite une leçon sur les préfixes, sur je vais pas au coiffeur, sur l'accord du participe passé à l'oral, la lettre que j'ai écrite. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc les puristes, en fait, le problème c'est que on l'incarne tous d'une certaine manière.
Ben, il faut peut-être chasser le puriste ou la puriste qui sommeille en nous.
Oui, voilà, mais quand on a passé des années à apprendre la grammaire sur les bancs de l'école,
on n'a pas vraiment. Enfin, voilà, le problème, c'est que, enfin, on l'a apprise un peu comme une langue étrangère et on ne l'applique pas. Surtout ceux qui vous diront il faut mettre ne ou je mets toujours ne, c'est facile de les prendre en faute. Donc,
et surtout si, comme vous avez dit à Anna Béillet, que la langue en fait donne un certain pouvoir, la grammaire, détenir des règles de grammaire, c'est avoir un certain pouvoir.
Ce ne sont pas des règles de grammaire. Moi, j'ai une autre vision des règles, une autre vision de la grammaire. Comme la grammaire, vraiment, la grammaire. On a comme objet mental qui permet plusieurs options, qui permet de s'exprimer. Voilà, la grammaire de la question dit qu'il y a au moins trois façons de poser des questions en français. Avec est-ce que, en inversant, sans inverser.
Et la troisième, c'est quoi?
Avec est-ce que.
En inversant.
En inversant et sans inverser.
Et sans inverser.
Voilà, okay. Donc c'est tu vas où tu vas, où est-ce que tu vas. Et tout n'est pas possible. Puisque si on a mis « est-ce que », on ne peut pas dire « est-ce que tu vas où ?» Voilà, c'est « où est-ce que tu vas ?» Donc, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Et on peut les mesurer. Voilà, « est-ce que » souvent est mal vu par les puristes, parce qu'il est plus récent. Enfin, voilà, il date de l'époque de Molière. Il voulait dire « est-ce le cas que ?» Donc, ce n'était pas pour le futur, ce n'était pas « est-ce que tu viendras demain ?» Mais il est bien commode, parce qu'il y a plein de cas où on ne peut pas inverser. Voilà, on peut... L'Académie dit qu'il ne faut pas mettre « quand est-ce que ?» C'est redondant, il faut mettre « quand ?» Donc, quand partez-vous, quand est-ce que vous partez, on a le choix, mais quand est-ce que je pars, on n'a pas le choix, je ne peux pas dire quand pars-je. Donc, il y a plein de cas où on ne peut pas inverser. Et donc, est-ce que est bien commode dans ces cas-là? Mais de toute façon, est-ce que c'est 20-30% des interrogatifs? La majorité, voilà, c'est tu vas où, tu viens, donc c'est sans inversion.
Et
sans est-ce que.
Et quand on observe la grammaire et ses grandes évolutions, telles que vous concevez la grammaire, donc non pas de manière prescriptive mais descriptive, c'est quoi les grandes tendances, justement, les grandes évolutions? On a parlé de la disparition du ne. Est-ce qu'il y a autre chose que ce soit
On a la disparition du passé simple. Le passé simple n'est plus employé, voilà, seulement dans des récits ou vraiment à l'écrit. Et souvent, on oublie un peu la conjugaison du passé simple. On vous demandait à des gens « élire », ils « élire », ils « élisir ». Donc, c'est « ils élure » comme « lire », mais personne dit « ils élure ». Voilà. Donc, le subjonctif imparfait, c'est parfait. C'est pareil, il est plus utilisé. Et la concordance des temps, du coup, est mal enseignée. Parce que la concordance des temps, c'est à l'indicatif. « Je pense que tu viendras », »,« je pensais que tu viendrais ». Mais dès qu'il y a le subjonctif, ben, c'est « je veux que tu viennes » et « je voulais que tu viennes », pas « je voulais que tu vinces ». Voilà, donc ça fait rire, ça fait cocasse, le subjonctif imparfait. Donc lui aussi, lui non plus, il n'est plus utilisé. Dans la grande grammaire du français, donc que j'ai dirigée avec Daniel Godard, ce qu'on a montré, c'est qu'à peu près pour toutes les constructions, on avait plusieurs options et qu'elles n'étaient pas tout à fait équivalentes. Parce que tu viens, où est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? C'est ouvert. Tu viens, il y a un biais. Ça peut vouloir dire tu viens, n'est-ce pas? Voilà. Et on peut pas dire est-ce que tu viens, n'est-ce pas? Donc il y a une façon de laisser ouvert ou de biaiser ou d'induire l'interrogatoire. Tu viens, ça veut dire dépêche-toi, je t'attends. Et donc des fois une variante s'efface au profit d'une autre. Donc pour ce que qui était recommandé au XVIIe siècle, à céder la place à parce que, point à céder la place à pas. Donc on a des évolutions. Mais quand les deux coexistent, quand plusieurs options coexistent, souvent c'est elles se spécialisent. Donc elles sont pas tout à fait, elles sont pas tout à fait équivalentes.
Nous, à la différence des parents, on ne manquait pas l'école pour semer du colza, locher des pommes et fagoter du bois mort. Le calendrier scolaire avait remplacé le cycle des saisons. Les années devant nous étaient des classes, chacune superposée au-dessus de l'autre. espace-temps ouvert en octobre et fermé en juillet. On apprenait des poésies de Maurice Rollina, Jean Richepin, Émile Verhaeren, Rosemonde Gérard, des chants, Mon beau sapin, roi des forêts. On s'appliquait à faire zéro faute aux dictées de Maurice Genevoix, Lavarande, Émile Moselli, Ernest Perrochon, et l'on récitait les règles de grammaire du bon français. Sitôt rentré à la maison, on retrouvait sans y penser la langue originelle, qui n'obligeait pas à réfléchir aux mots, seulement aux choses à dire ou à ne pas dire. Celle qui tenait au corps, liée aux paires de claques, à l'odeur de javel des blouses, des pommes cuites tout l'hiver, au bruit de pisse dans le seau et au ronflement des parents. La mort des gens ne nous faisait rien.
Annie Ernaux qui lit au Centre Pompidou des extraits de son livre « Les années ». Et l'on entend dans cet extrait, Anna Béhier, cette opposition qu'elle fait entre les règles de grammaire du bon français, mais sitôt rentrée à la maison, on retrouvait sans y penser la langue originelle qui n'obligeait pas à réfléchir aux mots, seulement aux choses à dire ou à ne pas dire. C'est très beau cette opposition entre d'un côté ces règles de grammaire qui, comme vous l'avez dit, sont puristes, prescriptives et nous amène à nous sentir fautifs, et d'un côté cette langue originelle qui fait que l'on parle sans y penser. Et ça, c'est intéressant, le fait de parler sans y penser, alors qu'on a toujours l'impression, peut-être ce cliché sur la grammaire, qui nous obligerait en fait à toujours réfléchir à ce qu'on est en train de se dire et à s'examiner en permanence.
Et ce qu'il faut bien remarquer, enfin Annie Ernaux le sait très bien, et on cite des exemples de ces phrases dans la grande grammaire du français, c'est que sans y penser, mais en appliquant des règles, pas sans règles, mais c'est ce que Claire-Blanche Benvenis, qui est une linguiste qui a beaucoup travaillé sur l'oral, appelle la grammaire première qu'on apprend spontanément, et puis à l'école vient la grammaire seconde, où on apprend beaucoup de choses qu'on ne savait pas et où on désapprend d'une certaine manière.
Découvre ce qu'on a appris aussi spontanément.
Oui, alors après Alain Rey dit que l'enfant est un linguiste en herbe, il fait ses généralisations, il observe des régularités, et puis à l'école, on abîme un peu tout ça en lui faisant, en le blâmant pour certains tours qui étaient bien réguliers, et en introduisant des exceptions, il n'y en avait pas. Mais par exemple, donc l'accord du participe passé, c'est typiquement un problème de grammaire seconde, parce qu'on ne l'entend plus. Donc on l'a jamais entendu pour le pluriel, mais pour le féminin non plus, on l'entend plus puisque c'est la lettre je l'ai lu, le billet je l'ai lu, la pomme je l'ai mangé, l'abricot je l'ai mangé. Et à un moment on entendait un petit peu ce final parce que ça allongeait je l'ai mangé, je l'ai lu, ça allongeait un peu la voyelle, mais maintenant à part dans certains endroits en Belgique ou en Suisse on n'entend plus la différence. Donc ça devient un problème purement orthographique sauf sur quelques verbes que j'ai faites, que j'ai mises, mais ce sont une quinzaine de participes tout au plus, donc la majorité des verbes, donc tous les verbes du premier groupe, tous les verbes du deuxième groupe et la majorité des verbes du troisième groupe, on l'entend plus, ça devient un problème orthographique. Et ça devient une espèce de casse-tête, parce que autant l'accord sujet-verbe ou l'accord du participe avec le sujet, on le comprend, c'est comme l'adjectif attribut, autant cet accord avec l'objet, donc pas avec tous les objets, parce que c'est je les ai... la lettre, je l'ai mise, mais les lettres, j'en ai prise. Donc, le « en » qui correspond à l'objet direct, il échappe. Les impersonnels aussi. Quand on a faire, voilà, les sardines, je les ai fait cuire et pas fait cuire. Pourtant, les sardines, c'est bien l'objet. Donc, il y a toute une myriade d'exceptions. Déjà, à l'époque de Vaugelas, Vaugelas lui-même disait « Ah, mais quand on a un sujet inversé, voilà, la décision qu'a prise monsieur, c'est bizarre. Ce serait qu'a pris monsieur. » Donc, on a accorderait avec l'objet seulement quand le sujet n'est pas inversé. Donc ça devient une espèce de casse-tête chinois. Et donc ça fait longtemps que qu'il est question de tolérer l'invariabilité du participe passé avec avoir, donc de ne pas rendre obligatoire cet accord avec l'objet. Depuis 1901, il y a eu une grande réforme orthographique en 1901 qui devait accompagner l'avènement de tous les enfants à l'école obligatoire et qui a été bloquée pour des raisons politiques. Et depuis, on a une réforme de l'orthographe en 1990 qui a été plus timide. qui portait essentiellement sur des doubles consonnes, des soudures de mots composés.
Et ça a marché, ça a
pris. De mots composés. Et malheureusement, elle n'est pas très appliquée. Voilà, elle n'est pas très appliquée.
Non, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement comme le dit Annie Ernaux dans son texte. C'est-à-dire que dès qu'il y a réforme, ou dès qu'il y a règle, ou dès qu'il y a manuel de grammaire, je mets de côté, effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, sur vraiment le cœur qu'on doit absolument utiliser, sinon il y a un impossible du langage, on a l'impression que la langue évolue indépendamment, en fait, de la réflexivité qu'on peut avoir sur elle. C'est-à-dire que c'est les usages qui vont faire évoluer la langue, qui vont dire que tel usage est dépassé et pas tel autre. Est-ce qu'on a déjà assisté à des usages qui ont rendu, en fait, caduques des prescriptions qui jusque-là étaient bien ordonnées, étaient bien entendues, étaient enseignées?
Alors d'abord, il faut, puisqu'elle parle de dictée et d'orthographe, il faut bien voir que l'orthographe, c'est une convention à un moment donné qui note la prononciation. Et donc à partir du moment où la prononciation évolue, l'écriture devrait évoluer. Donc jusqu'en 1835, on avait des réformes régulières de l'orthographe. Par exemple, c'est OI qui se prononçait E, on les a écrits AI. Donc on a fait au collège qui s'écrivait avec un E, on l'a écrit avec un E, puisque maintenant on le prononçait E. Et puis tout s'est bloqué. Donc en 1990, on proposait doté des circonflexes qu'on n'entend pas sur I et U, et par exemple d'écrire événement comme il se prononce avec E et pas avec E. Mais voilà, on peut considérer. Est-ce que la convention graphique, qui est l'orthographe, l'écriture, accompagne ou non l'évolution de la langue?
Oui.
Donc déjà, on pourrait avoir une orthographe qui soit plus rationnelle, parce que dans l'orthographe, il y a la partie grammaticale, les accords, il y a la partie lexicale. Et la partie lexicale, on souffre, le français par rapport à d'autres langues issues du latin, souffre d'une orthographe plus étymologisante, avec toutes sortes d'erreurs étymologiques, donc avec ces ph, ces th, ces qu'on n'a pas en latin, hein, ou qu'on n'a pas en italien ou en espagnol, par exemple. Donc ça devient, l'orthographe lexicale devient vraiment une espèce de tour de force. On apprend par cœur des mots pour les mots, c'est pas lié à des règles, ça fait pas vraiment appel à l'intelligence ou à la connaissance de la langue. Donc pour ça, voilà, soit on les simplifie, soit on autorise les correcteurs d'orthographe à l'école, mais ça vaut pas le coup d'y passer le temps qu'on y passe, et de toute façon on se souviendra plus de chrysanthème et borborygme, mais à quoi bon. Et après, pour l'orthographe lexicale, pour l'orthographe grammaticale, pardon, les accords, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le temps de passer autant de temps sur un accord du parti passé qu'on n'entend plus à l'oral, on ne le fait plus, on s'en aperçoit même plus, et à l'écrit, moi je reçois beaucoup de mails professionnels où il n'est pas appliqué. Je m'en amuse, et mes interlocuteurs, quand mes correspondants, si je leur dis, culpabilisent, mais c'est très bien, ils m'écrivent, je vous ai écouté, et ben oui, c'est compliqué, vous, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, et moi ça me gêne pas, mais ça montre qu'il n'est plus appliqué, donc est-ce que ça vaut la peine d'y passer tant de temps? C'est comme les pluriels en X, donc Maigret, un des premiers livres de grammaire, donc là c'est le 16e siècle, disait déjà, mais c'est pas français, c'est une aberration. Lui, il disait que l'écriture, il l'appelait orthographe, était vicieuse, parce qu'il voyait que les imprimeurs commençaient à prendre le pouvoir en imposant une certaine écriture. Il disait, c'est pas possible. Donc c'est plus en X, c'est une erreur de copie, ça devrait être en S. Voilà, on pourrait, pourquoi on apprend les pluriels de six mots en OU qui ont X, les autres ont S. Donc on perd du temps pour des choses, alors qu'on pourrait apprendre des choses plus fondamentales. Par exemple, reconnaître les sujets inversés. Souvent, voilà, qui aime la voisine, les gens se rendent pas compte que c'est ambigu, qui peut être sujet, qui peut être objet, il ne saura pas les mêmes accords, voilà, qui applaudit les voisins.
Ouais.
Donc voilà, tout ce qui est du domaine de l'inversion, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire et à voir.
Et sur la féminisation, qui est aussi une des grandes tendances et qui est une grande question, en fait, qui agite l'Académie française, où on pourrait parler aussi de l'écriture inclusive. Alors, il y a l'oral et l'écrit, là. Mais ça, c'est un des grands bouleversements aussi actuels, une vraie tendance.
Alors, il y a la problématique du genre. Et souvent, on dit, donc le français a deux genres, masculin, féminin, il n'y a plus de genre neutre, comme en latin. Et souvent, on dit le genre est arbitraire. Mais en fait, pas pour les non-humains. pour les non-humains, c'est le père et la mère, donc c'est le masculin qui correspond à l'homme et le féminin qui correspond à la femme. Il y a vraiment très peu de noms humains, comme un individu, une personne, où il y a un genre fixe qui correspond aux deux sexes ou aux deux genres sociaux. Donc on interprète vraiment le genre grammatical comme genre social pour les humains, et c'est pour ça qu'il y a cette revendication de féminisation des noms de métiers, parce que quand on dit un juge, a priori, on voit un homme. Alors, dans l'usage, on nous a appris que le masculin valait pour les deux genres, mais c'est juste une convention. Et quand on en...
Et la convention peut changer, peut être...
Mais c'est cette ambiguïté du masculin, on voit qu'en fait, elle est peu claire. Et que quand on dit un juge, spontanément, on va voir un homme, comme quand on dit un chirurgien. On ne va pas voir une femme. Quand on interroge les gens, est-ce qu'il y avait des chirurgiens, est-ce qu'il y avait une femme, ils sont plus gênés que si on dit qu'il y avait des chirurgiens et des chirurgiennes, ou il y avait des personnes du bloc. Donc on voit que le masculin, en fait, est plutôt interprété spontanément pour les humains comme renvoyant un homme. Donc c'est pas neutre de dire... Enfin, c'est pas... Ça a un sens de dire la chirurgienne ou l'ambassadrice, parce que sinon, on voit des hommes plus que des groupes mixtes. Mais cette féminisation du nom de métier, elle allait de soi pour des professions réputées moins nobles, voilà, comme caissière ou vendeuse,
infirmière,
coiffeur, coiffeuse. Voilà, là, c'est clair que coiffeur, c'est l'homme, et coiffeuse, c'est la femme. Et donc la résistance, c'était pour les professions plus nobles et était encore perturbée par le féminin dit conjugal. Donc au XIXe siècle, on disait que l'ambassadrice était la femme de l'ambassadeur et la préfète la femme du préfet, puisque les femmes n'étaient pas censées occuper ces fonctions-là. Et alors donc maintenant qu'il y a cette demande sociale en fait de féminiser les noms de métiers. Donc les pays ont répondu différemment. Voilà, le Québec était en avance dans les années 70. En France, c'est intéressant parce que ça a été des gouvernements de gauche. Donc la circulaire Fabius de 1986 qui n'a pas été appliquée, et la circulaire Jospin de 1997 qui, elle, l'a été, recommandant avec des listes à l'appui pour essayer de d'encourager les gens et de standardiser un peu, de dire la ministre, par exemple.
Mais est-ce que ce genre de circulaire, ça marche, Anna Béillet ? Est-ce qu'en fait, c'est des circulaires qui suivent les mœurs, les usages du langage, ou est-ce qu'au contraire, ce sont ces réformes-là qui modifient le langage ? Alors, c'est quoi qui prime dans ce décret?
Ce cas-là a été vraiment étudié par mes collègues, donc Bonamy et Boyer, qui sont linguistes, qui ont dépouillé les débats de l'Assemblée nationale, c'est des archives publiques. Donc en 86, rien ne change, il n'y a que les députés communistes qui disent la ministre ou la députée, et puis Roselyne Bachelot, qui est assez un peu seule de son camp. Et en 97, enfin disons 98, là, on a une bascule, et il commence à y avoir une majorité de députés qui disent la ministre ou la députée. Mais ça s'accompagne justement d'une plus grande visibilité des femmes ministres. Voilà, c'est l'époque où on a plus de femmes ministres qui se revendiquent comme femmes. Donc ça accompagne en fait un changement social. Mais la féminisation systématique des noms de métiers, elle est vraiment récente dans les médias français. C'est 2019. On s'y est habitué assez rapidement. C'est un changement vraiment rapide.
Vous avez employé le terme de s'y habituer, mais finalement, c'est vraiment ça en fait qui fait la grammaire en fait, qui presque innerve la grammaire en fait, c'est l'habitude.
La fréquence de l'usage, oui, qu'on entend. Mais cette féminisation n'est pas complètement aboutie parce que donc c'est pour les noms de métiers, mais il y a aussi ce masculin dit générique est aussi employé ou imposé pour les accords. Donc là, c'est l'affination dans le lexique. Donc cette affination, il faut dire aussi qu'il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs règles, comme souvent, plusieurs règles qui sont en concurrence. Pour la ministre, on n'a pas le choix, la journaliste, la linguiste, parce que les noms déjà ont la même forme. Mais pour les autres noms, on a le choix, par exemple. Est-ce que c'est juste une auteure, on change juste l'article comme ministre? Est-ce qu'on change la finale, on met un E muet, une auteure avec un E, ou est-ce qu'on change le
autrice.
Autrice, comme actrice. On a vu les trois. Autrice.
On a les trois d'ailleurs en ce moment.
Voilà, autrice est en train de l'emporter un peu, mais on va voir l'évolution. Et donc oui, pour l'accord, Ce qu'on a découvert en observant l'usage, c'est que cet accord au masculin, donc mon père et ma mère sont contents, coexiste avec l'accord dit de voisinage ou de proximité qui était enseigné en fait encore au 19e siècle. Et Vaugelas, pour revenir à lui, disait, essayait d'expliquer la règle de l'accord en masculin, disant le genre masculin étant le plus noble doit prénominer, mais il ajoutait l'oreille a de la peine à s'y accoutumer. Et parce qu'il remarquait lui-même que, les grammaires prescriptives le reconnaissent aussi, mais quand même éviter d'avoir un masculin à côté d'un féminin, ça choque l'oreille. Donc ils reconnaissent bien que c'est quand même l'accord de proximité qui l'emporte. Donc est-ce que vous dites certaines régions et départements?
Non, je dis certaines régions.
Voilà, donc c'est le féminin qui l'emporte parce qu'il est plus proche.
Est-ce que j'ai tendance à accorder au masculin quand il y a un masculin dans la phrase à l'écrit.
Là, département,
à l'écrit.
Vous dites écrire. On a regardé l'écrit. Personne n'écrit certaines régions et départements sur le site.
Non, je pense par exemple à des hommes et des femmes étaient assis. Je pourrais dire, là, je me poserais vraiment la question de savoir si je l'accorde avec des femmes ou avec des hommes. Voilà, j'aurais tendance à penser que je l'accorderais avec des hommes.
Parce que là, c'est plus loin. Il y a « était » entre les deux. Donc, l'attribut, c'est différent parce qu'il est plus loin. Mais quand il y a vraiment proximité, donc dans le groupe nominal, on va dire, vous dites des chants et des danses bretons ou bretonnes ?
Bretonne.
Ben voilà, plutôt bretonne. Et donc ça, les puristes l'ont remarqué. Donc, ils sont gênés en disant, tournez ça autrement. Mais on voit bien que la règle de proximité, elle continue à exister et elle devrait être enseignée en tant que telle. C'est là où les régularités dégagées par les linguistes sont intéressants parce que il peut y avoir une prise de conscience des règles qui sont plus les règles enseignées à l'école, mais qui sont toujours vivantes dans la langue. On voit que la langue résiste avec sa logique de proximité à côté de l'accord au masculin, disons, pour la tribu. Et là, il y a quand même un pouvoir de la norme parce que on trouvait l'accord de la tribu au féminin à l'époque classique. Voilà, mais c'était aussi un accord au singulier. Bossuet disait le raisonnement et la volonté est droite, par exemple. Ça, c'est des choses qui ont disparu. Donc, il y a eu une évolution.
Une dernière question, Anna Beyer. En général, quand on veut défendre la langue française, on parle de sa beauté, de son unité. D'ailleurs, on parle de la langue française, d'une identité française, du patrimoine. Vu ce que vous dites, même s'il y a des normes, en fait, des usages, des tendances qui se dégagent, il y a quand même plutôt une multiplicité, en fait, de langue française. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Toute langue est caractérisée par sa variation sociale, variation régionale. Et c'est le signe d'une bonne santé de la langue. Et donc déjà, défendre, c'est un verbe un peu suspect. Parce que défendre contre qui, contre quoi ? La langue française n'est pas menacée. La langue française gagne des locuteurs dans le monde. Le nombre de francophones augmente, et augmente beaucoup. Et elle gagne aussi de l'écrit. C'est pas seulement de l'oral, mais c'est de l'écrit. On n'a jamais autant écrit en français. Pensez à tous les SMS.
Grâce à Internet, justement.
Grâce à Internet, c'est une langue très présente sur Internet. Donc, Internet est une chance pour le français, comme pour les autres langues. Donc déjà, défendre, c'est un peu biaisé. Et après, il y a la beauté, ça c'est une question de goût. Et donc, effectivement, les fautes blâmées par les puristes peuvent être peut-être des fautes de goût, mais pas plus.
Merci beaucoup, Anna Beyer. Je rappelle que de vous, on peut donc lire sous votre direction et celle de Daniel Godard en collaboration avec Annie Delaveau et Antoine Gauthier, La Grande Grammaire du Français, coédition Actes Sud et Imprimerie Nationale. Grand merci à vous.
Merci à vous.
Je vas, tu vas. Il va, nous va, vous va, il va, je va, tu va, il va, nous va, vous va, il va, je va, tu va, il va, nous va, vous va, tu va, il va.
Aïe, apprendre à parler français. Vous préférez football, vous préférez jouer mat, vous préférez vélo, vous parlez apprendre français. Dis garçon, allez apprendre à parler français. Que regretter,
allez apprendre à parler français.
Que regretter,
allez apprendre à parler français.
à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Sisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Laure d'Aleste, réalisation Nicolas Berger, prise de son Lucas Finet. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.
Le podcast Enquête d'idées repose sur une idée simple. Les idées, comme les personnages, ont une vie. Elles naissent, se transforment, se marient parfois. Enfin bref, vous avez compris l'idée.
Guillaume Erner.
Ce podcast est donc la première tentative de traiter une idée comme un organisme vivant et agissant. Et pour débuter cette série, j'ai choisi de traiter une notion qui est littéralement partout, conjuguée sous toutes ses formes, la résilience.
Enquête d'idées, la résilience, un podcast en 4 épisodes de Guillaume Erner et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.